je vais vous présenter je vais essayer de vous présenter l'intérêt de l'utilisation des méthodes projectives dans la clinique des patients cérébralisés, en faisant d'abord un petit historique sur l'utilisation de ces méthodes, qui sont anciennes, en particulier leur Rochard, et l'intérêt de l'approche psychanalytique dans l'utilisation des méthodes projectives pour la clinique des patients cérébralisés. Alors, le Rochard et les patients cérébralisés, donc c'est essentiellement le Rochard qui a été utilisé dans un premier temps pour l'étude clinique des patients cérébralisés. Ça vient de Rochard lui-même, qui était extrêmement intéressé par la clinique des patients organiques, comme on disait à l'époque. Dans son livre Princeps de 1921, Psychodiagnostic, il y avait 7 de ces 28 cas qui étaient des patients dits neurologiques. Et un chapitre entier était consacré à un patient qui avait un syndrome de Korsakoff. Il faut aussi remettre cette utilisation du test de Rorschach dans le contexte du début du siècle. C'était la psychiatrie du début du siècle, où effectivement patients neurologiques et patients psychiatriques étaient dans un même lieu. Et il y avait en particulier aussi toute la problématique des blessés de guerre, hein, la guerre de 14-18, avec l'importance des blessés de guerre, et à la fois des blessés qu'on appelait les commotionnés et les blessés traumatiques. Le Rorschach, enfin Rorschach avait envie d'utiliser ce test pour distinguer dans un premier temps les patients épileptiques et les patients organiques à l'intérieur de l'hôpital psychiatrique. Et donc il s'agissait de trouver des signes en utilisant le test de Rorschach qui pourrait détecter les signes avant-coureurs de l'épilepsie. Il ne faut pas oublier qu'évidemment, il n'y en avait pas les outils diagnostiques qu'on a à l'heure actuelle, il n'y avait pas en particulier l'électroencéphalogramme. Alors en 1929, et c'est la découverte de l'électroencéphalogramme, et après l'apparition de l'électroencéphalogramme dans les années 30-40, finalement les études avec le Rorschach se centre sur la question des personnalités, la question des personnalités organiques, et avec l'ambition de pouvoir prédire, avant l'apparition des crises, des sujets prédisposés à l'épilepsie. Dans les années 30, il y a une certaine régression de l'utilisation du Rorschach. Malgré tout, il y a eu des études qui ont été, dont on parle encore, en particulier l'étude de Oberholzer et de Piotrowski. Piotrowski, a mis au point une espèce de méthode pour détecter 10 signes d'organicité dans le test du Rorschach. Et Oberholzer avait lui aussi commencé à essayer de trouver des signes d'organicité dans le test du Rorschach. L'hypothèse de toutes ces études, c'était la suivante, c'était que c'est la personnalité qui crée la maladie. Alors, Piotrowski, si on regarde un petit peu dans le détail, en 1936, il a travaillé donc avec des protocoles de Rorschach, de 18 protocoles de Rorschach, avec des patients avec des atteintes organiques cortico-sous-corticales, 10 patients atteints de maladies organiques mais sans lésions cérébrales, et 5 patients avec une conversion hystérique. Et il a donc établi 10 signes d'anormalité, entre guillemets, pour différencier les patients organiques des patients non organiques. Alors, ces signes, il y avait 6 signes qui relevaient du psychogramme. Alors, vous savez que dans le test de Rorschach, il y a une partie un petit peu statistique, on cote le nombre de réponses, le temps moyen et le nombre de types de réponses, comme par exemple la kinesthésie, c'est-à-dire les mouvements humains dans les réponses données par les patients. Donc, dans les signes qui relevaient du psychogramme, il notait qu'il y avait un faible nombre de réponses, inférieur à 15, alors que la moyenne elle est autour de 25. Un temps moyen par réponse qui est supérieur à une minute, donc il y a un temps long, qui signifie un temps de latence long avant d'avoir une réponse donnée par le patient. Des kinesthésies humaines inférieures ou égales à 1, avec donc un grand nombre de protocoles dans les protocoles des patients avec des lésions cérébrales où il n'y avait pas de kinesthésie humaine, sachant que les réponses kinesthésie humaine, ce sont des réponses qui traditionnellement signent la capacité d'intériorisation, de symbolisation des patients. Un pourcentage de réponses formelles, de bonnes réponses formelles F+, inférieur à 70%, sachant une fois de plus que la norme elle est justement autour de 70%. Dans ce pourcentage des réponses formelles, ce pourcentage inférieur montrait que les patients avaient du mal à prendre en compte les éléments de la réalité externe. Un pourcentage de banalité inférieur à 25%. Donc en fait, actuellement, on ne parle plus de pourcentage au niveau des banalités, on parle du nombre de réponses. Actuellement, la norme est autour de 5 réponses banales. En fait, dans les réponses inférieures à moins 25%, ça faisait une à deux réponses banales dans les protocoles. Et au moins une réponse nomination couleur, qui sont des réponses qui montrent que le patient réagit très vivement au contenu couleur et la planche résonne au niveau affectif. Sur les signes qualitatifs, il avait noté qu'il y avait des réponses répétées. Il appelait ça la répétition. On parlerait à l'heure actuelle de persévération. Avec la difficulté de passer d'un contenu d'une réponse à une autre. Alors, il parlait de l'impotence. L'impotence, c'est l'attitude du patient donnant une réponse dont il se rend compte qu'elle est de mauvaise qualité, mais il n'arrive pas à la corriger. La perplexité, donc le sujet est perplexe, il doute de la valeur de ses réponses, et pour se rassurer, il interroge l'examinateur. Donc il y a un soutien, on parlerait à l'heure actuelle d'étayage, la nécessité d'étayage du côté de l'examinateur, et des phrases automatiques. Le sujet utilise des phrases familières, de façon mécanique, sans se préoccuper si elles ont une consistance ou non. Et pour Piotrowski, la présence de 5 de ces 10 signes permettait de distinguer le groupe des patients avec des lésions cérébrales des deux groupes, des patients qui n'avaient pas de lésion cérébrale. Donc ça, c'est la première grosse étude à partir de Rorschach, sachant que là, le but est donc dans un but diagnostique. Dans les années 40-50, les années d'essor de la psychochirurgie, et en particulier des lobotomies, des lobectomies, des hémisphérectomies. Je ne sais pas si vous avez vu comment il passait au théâtre soudain l'été dernier de Tennessee Williams. Et donc c'est une pièce qui a été écrite dans les années 50. Et l'héroïne, on parle de faire subir une lobotomie à l'héroïne dans cette pièce. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Donc c'était vraiment une pratique excessivement courante dans le cadre de la psychiatrie. Et dans ces années-là, le Rorschach a été utilisé pour mettre en évidence les symptômes dits neuropsychologiques. Il y avait une visée localisationniste pour parfaire l'utilisation de la psychochirurgie. Donc, ça a été à cette époque-là, il y a eu un regain d'utilisation du Rorschach pour les patients cérébrolésés. Ce que Capto, qui a fait une étude sur toute, qui a fait un article qui faisait une revue de la littérature sur l'utilisation du Rorschach depuis 1921, a montré donc qu'il y avait 400 études qui avaient utilisé le Rorschach et que la grande majorité de ces études se situaient justement durant ces années 40-50. Alors, avec cette psychochirurgie, en fait, les patients restent longtemps à l'hôpital. Donc, des études longitudinales sont possibles. Du coup, il y a possibilité de faire à long terme une étude de la personnalité des patients cérébro-lésés suivant le type de lésion cérébrale. Alors, un petit peu plus tard, dans les années 70, on revient au Rorschach, et on revient au Rorschach pour, dans le cadre des expertises, des expertises psychiatriques des patients qui ont eu un traumatisme crânien, mais plutôt des traumatismes crâniens légers, donc c'est-à-dire sans séquelles fonctionnelles, et le Rorschach est utilisé pour essayer de repérer les simulateurs, c'est-à-dire c'est la grande question du syndrome subjectif qui n'existe pas que autour des années 70, puisque ça existait déjà, c'est une question récurrente depuis les accidents de chemin de fer à la fin du 19e siècle, quand les assurances devaient payer les indemniser les voyageurs qui avaient eu un accident de chemin de fer avec des blessures à la tête, mais sans séquelles fonctionnelles. À partir de ce moment-là, il y a eu toute cette question de déterminer parmi les gens qui se plaignaient de cet accident auprès des assurances, de déterminer ceux qui pourraient être simulateurs ou pas. Bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, Nedulcu et Zellinger de Bucarest ont montré que ces patients dits simulateurs ont retrouvé dans les protocoles de Rorschach de ces patients dits simulateurs les fameux signes organiques de la méthode de Piotrowski, et que finalement ces patients pouvaient être considérés comme des patients comme des patients dits organiques, c'est-à-dire finalement ça aboutit à la reconnaissance de ces traumatismes crâniens légers, ce qui n'était pas évident au départ. Alors à l'heure actuelle, on a évidemment d'autres moyens de montrer les séquelles dans le cadre des traumatismes crâniens légers chez les blessés, mais à l'époque, il n'y avait pas toute l'imagerie, il n'y avait pas tous les bilans neuropsychologiques qui existent à l'heure actuelle. Alors ensuite, toujours dans les années 70, il y a Jacques Demolle qui est un psychologue belge qui est professeur à l'ULB, qui a beaucoup travaillé donc auprès des traumatisés crâniens et qui a travaillé dans une visée beaucoup plus psychopathologique sur les protocoles de Rorschach des adultes traumatisés crâniens. Alors, lui, il a fait passer des protocoles très rapidement après l'accident, 3 mois après l'accident, et il a analysé un petit peu ces protocoles. Ce qu'il a montré, donc, c'est que chez ces patients, 3 mois après l'accident, il y avait une difficulté pour passer d'un registre à un autre à l'intérieur du protocole, ce qu'avait déjà noté Piotrowski. Il retrouve le nombre de réponses faibles. Il trouve, là, de façon plus précise, une tendance des patients à répondre par des réponses globales, des G primaires, pas forcément des G organisés, c'est-à-dire finalement une approche perceptive assez grossière. Et il montre que les réponses formelles, le nombre de réponses formelles, c'est-à-dire qu'ils s'appuient sur la forme, sont proches de la normale, mais avec très peu de F+, c'est-à-dire de bonne forme, c'est-à-dire pour ces patients, une difficulté à prendre en compte la réalité externe, c'est-à-dire les données perceptives de la réalité externe. Donc ça aussi, c'est quand même assez intéressant à plusieurs titres. C'est-à-dire à la fois de ce que ça peut dire sur le vécu de ces patients par rapport aux données perceptives externes et puis aussi ce que ça peut donner comme difficulté qu'on on va repréciser après sur le fonctionnement psychique de ces sujets. Ce qu'il a montré, Jacques de Molle aussi, c'est que les contenus des réponses étaient peu diversifiés. Donc on retrouve un petit peu l'idée de persévération entre les contenus. Le A% était élevé, c'est-à-dire les réponses avec des réponses animales étaient élevées. Les réponses anates étaient très élevées aussi. On est à 3 mois de l'accident quand même. Le nombre de banalités était à 3 ou 4, donc légèrement inférieur à la moyenne, mais enfin, oui, à ce qu'on trouve dans les normes, mais avec une diminution du nombre de banalités avec l'augmentation de la gravité du coma et du trauma. Il note aussi qu'il y a, comme pour chez Piotrowski, il y a peu de réponses K, c'est-à-dire de kinesthésie humaine, c'est-à-dire de réponses qui impliquent un scénario appliquant un mouvement dans les réponses des patients, avec 0K pour la majorité, et peu de CAN, c'est-à-dire des réponses de kinesthésie animale. Donc, une fois de plus, peu de réponses montrant une intériorisation des scénarios chez les patients. Mais pas plus de réponses couleurs, c'est-à-dire que si les patients ne s'appuient pas forcément sur un scénario, sur l'intériorisation d'une histoire, d'un fantasme en fait, c'est pas pour autant qu'ils vont se laisser aller à des réponses qui vont être plus du domaine de l'affect, qui sont traditionnellement les réponses couleurs. Il y a peu de réponses estompage qui montrent des réponses qui dénotent de l'anxiété, et peu de réponses claires-obscures, les réponses qui démontrent des signes d'angoisse. Donc finalement, des protocoles qui sont pauvres et qui sont très inhibés, avec ce qu'on appelle un TRI cohorté, ça veut dire ce que je viens de dire, c'est-à-dire que finalement, les protocoles sont plutôt très inhibés. Ce qui va dans le même sens, c'est qu'on voit que ces sujets ont tendance au refus, et surtout, à la planche 7, je vous la montre, c'est cette planche-là, avec un grand vide central. C'est une planche donc, qui est à la fois bilatérale, qui normalement induit des réponses de mise en relation, et qui a un contenu latent autour des problèmes de la problématique maternelle. Donc surtout à la planche 7, avec cette résonance maternelle, les patients montrent un choc au blanc, au vide, surtout donc 3 à 6 mois après l'accident, et les quelques patients qu'il a pu retester à 1 an, on voit qu'il y a une diminution du choc à cette planche 7. Alors il faut savoir que cette planche 7 n'est pas dans la population ordinaire une planche qui suscite des refus ou des chocs. C'est plutôt une planche qui rassure, qui apaise. Et donc c'était probablement tout l'effet du blanc et du vide qui venait là provoquer des réactions d'angoisse chez les sujets. Toujours dans ce que note Jacques de Molle, il montre que dans les contenus des patients, il y a des préoccupations quand même anxieuses au niveau des contenus, avec beaucoup de réponses autour de la castration, mais autour de l'atteinte corporelle plus exactement. Un papillon avec des ailes découpées, des troncs d'arbres cassés, deux inujambistes, parfois des réponses autour de la castration au niveau phallique, hein, une tête blessée, il lui manque la tête, etc. Donc des références finalement directes à l'accident, même s'il y a eu un coma et donc un oubli de l'événement pour le patient. Un oubli de l'événement tel qu'il s'est déroulé, pas l'événement en tant que tel. Et il note aussi des réponses parfois désinhibées avec l'affleurement des processus primaires. Donc ça, Ariane nous avait parlé des processus primaires la dernière fois, je ne vais pas revenir dessus, mais simplement donc une des réponses pulsionnelles qui apparaissent, qui ne sont plus du tout liées, plus du tout secondarisées dans des synapses. Alors, ce qu'on peut dire par rapport à ces études de Jacques Demarle qui sont extrêmement intéressantes, il continue à travailler là-dessus, il travaille dans le cadre des expertises et dans le cadre des assurances, et puis bien sûr à l'université. Et c'est intéressant parce qu'il a un gros recul, donc c'est quelqu'un qui a énormément d'expérience. Donc, la critique qu'on pourrait faire, en tout cas par rapport à ses premières études, c'est qu'il n'a pas fait de groupe homogène par rapport à la durée du coma. Enfin, la différence, il y a un critère, c'est un coma qui... C'est le coma prolongé à partir... Il dit coma prolongé quand le coma dépasse un jour. Et puis après, c'est... Voilà, c'est coma bref ou coma prolongé. Et quand on voit la palette de séquelles et de différences entre une personne qui a eu un coma de un jour et une personne qui a eu un coma de 6 mois, et donc avec des séquelles qui sont extrêmement différentes, et notamment au niveau neuropsychologique, on peut se dire que peut-être là, c'est quand même un peu trop mélangé pour avoir des réponses finalement... très, très intéressante qu'on puisse reprendre. Et la deuxième chose qu'on pourrait dire aussi, c'est que l'étude, en tout cas la première étude, a lieu à peu de distance du coma, 3 à 6 mois, et c'est une période où, au point de vue en tout cas neuropsychologique, la personne est encore dans une phase de reconsolidation, enfin elle n'est pas dans une phase de reconsolidation précisément, de récupération, et donc c'est pas non plus, ça ne donne pas une image de ce que vont devenir les patients dans leur fonctionnement psychique à long terme et après l'apparition de séquelles définitives au niveau neuropsychologique. Ce qui est une fois de plus important, comme dans les études de Bucarest, c'est que ce sont des recherches qui ont lieu dans le cadre du syndrome subjectif. Donc c'est un peu des recherches à la demande des assurances, des expertises, toujours pour essayer de détecter les séquelles neuropsychologiques et les conséquences de l'accident pour les patients qui ont eu un traumatisme crânien sans graves séquelles fonctionnelles. Donc c'est important bien évidemment, mais en même temps, c'est quand même relativement restreint comme objectif. Alors, en 1981, donc Schachter, donc pareil, il continue les études sur le syndrome subjectif. Alors, vous savez, c'est le syndrome de Pierre-Marie, c'était déjà une question pendant la guerre de 14-18, hein, ce syndrome subjectif, puisque c'est Pierre-Marie qui l'avait identifié en quelque sorte, puisqu'il était chargé de recevoir les blessés commotionnés qui revenaient des tranchées sans blessure apparente et savoir si on pouvait les renvoyer au front ou pas quand ils se plaignaient de céphalée, de vertige, d'insomnie, d'ailleurs ça je l'ai marqué, de dyspnésie, d'asthénie, etc. Et sachant que Pierre-Marie a été quand même un grand défenseur de ses blessés et qu'il ne faisait pas repartir comme ça facilement les soldats au front alors qu'on tout poussait à les faire repartir. Donc en tout cas, en 1981, il y a eu une étude donc, de Schachter avec 58 cas de traumatisme crânien avec des syndromes subjectifs. C'est-à-dire que ce sont donc des traumatismes crâniens légers, sans perte de connaissance ou très brève. Et il compare avec un groupe de 61 malades neurologiques non traumatiques et 60 personnes sans symptômes neurologiques. Donc là, c'était juste pour vous rappeler quels étaient les symptômes de ce syndrome subjectif. Les céphalées, les vertiges, les insomnies, l'asthénie, l'irritabilité, les troubles de l'attention, la photophobie, hein, ça va avec les migraines, l'hyperacousie, les chutes de la libido. Sachant que dans ces patients, il y avait un examen neurologique normal en 80 pour 58%, 42% montrer ce qu'il appelle instabilité corporelle. Là aussi, on voit le progrès qui a été fait depuis. C'est évident qu'on a d'autres outils et d'autres outils pour mesurer les conséquences d'un traumatisme crânien léger, que ce soit en neurologie ou que ce soit en neuropsychologie. Alors, un an après l'accident, et il fait un retest à 6 mois pour plus de 50%, donc on est quand même plus décalé dans le temps. Et il ne trouve pas de différence significative au niveau du retest, ce qui est intéressant, ce qui montre bien qu'au bout d'un an, on a une relative consolidation des symptômes. Ce qui montre que finalement, les résultats ne sont très différents du groupe de patients neurologiques sans atteinte neurologique, cérébrale, et par contre, que ce sont des résultats identiques aux patients qui ont des lésions cérébrales, mais d'origine non traumatique. En particulier, le nombre de réponses est faible. Les formes F plus pour cent est faible. Peu de réponses kinesthésie et peu de réponses sur la forme et la couleur. Donc on retrouve les difficultés de secondariser de ces patients. La fréquence des refus est toujours la tendance à la coartation, c'est-à-dire donc des protocoles très inhibés. Sachant que là, on est dans des patients qui ont finalement un trauma crânien léger. Bien. Donc, le résultat avec cette étude-là, c'est qu'une fois de plus, cette étude a permis quand même de faire reconnaître l'importance de ce syndrome-là pour un moment où il n'y avait pas d'autre outil pour faire reconnaître les séquelles de ces traumas crâniens légers. Alors, Bailey, en 1982, a fait des études, non pas chez des traumatisés crâniens, mais chez des patients cérébrolésés avec des lésions ou de l'hémisphère droit ou des lésions en particulier temporo-occipitale droite, pardon. Et il a montré un certain nombre de... Il a mis en évidence un certain nombre de points qui sont intéressants, à savoir la difficulté pour ces patients d'avoir une réponse productive identique à une population normale. Il y a une production altérée, une absence de distinction figure-fond. Alors, ça montre aussi finalement la limite de l'utilisation de ces tests-là, en particulier du Rorschach, quand on a des patients avec des agnosies visuelles ou avec des troubles visuels. La non-reconnaissance des banalités, mais ça va un peu de pair, hein, tout ça. La difficulté à distinguer les grands dés. Vous savez qu'il y a statistiquement, il a été mis au point un certain nombre de découpages de la planche, c'est-à-dire que les personnes qui passent le Rorschach statistiquement ont plus de chances d'isoler telle ou telle partie de la planche pour donner une réponse. Et ça donne une idée aussi leur capacité à s'appuyer sur la réalité externe, donc à prendre en compte les éléments de la réalité externe. Donc là, chez ces patients avec des lésions de l'hémisphère droit, il y a une difficulté à distinguer les grands dés. Et corrélativement, une augmentation des réponses petits détails. Alors, ce n'est pas qu'ils sont petits dans la forme, c'est qu'ils sont rares au niveau des statistiques. Et enfin, une augmentation des réponses au niveau des réponses confabulation, c'est-à-dire des réponses qui s'éloignent beaucoup du contenu habituel, du contenu manifeste et latent de la planche. Quand ces patients ont une atteinte frontale gauche, ils montrent un ralentissement dans la production des réponses, une fréquence des persévérations et des réactions complexes. Qu'il dit de désarroi. Là, on peut imaginer que c'est la difficulté aussi à donner des réponses, tout simplement l'initiative à pouvoir produire des réponses, à répondre à ce qui est demandé. Alors, de façon beaucoup plus proche, donc Exner a fait une grande étude en 1996. Et Cette étude a été rapportée dans un article récent de Musio dans Neuropsychiatrie, l'enfant et l'adolescent. Donc, Exner a travaillé sur les Rorschach de 60 patients traumatisés crâniens légers ou modérés. Donc ça, c'est important, ça montre que ce sont des patients qui n'ont pas des séquelles importantes, fonctionnelles importantes. Le test a été passé de 3 à 5 semaines après l'accident. Donc ça veut dire quand même que les patients sont en pleine récupération et dans une phase aiguë encore. Il montre malgré tout que dans ces Rorschach, il y a une absence de psychopathologie grave. Il n'y a pas de signe de dépression ni de signe de schizophrénie. Il montre que les patients ont tendance quand même à éviter des situations complexes. Donc il ne va pas y avoir par exemple des réponses élaborées autour des G. On retrouve les G primaires de Piotrowski. Et ce qu'il appelle un abaissement des ressources psychologiques adaptatives, c'est-à-dire grosso modo une difficulté, donc, là je détaille, hein, une difficulté à identifier, à exprimer, à utiliser son vécu affectif, une difficulté à mettre en place des alors Exner a une approche cognitive, hein, des stratégies cognitivo-comportementales qu'il appelle stables et prévisibles, un abaissement de la résistance au stress, une impulsivité et une importante centration sur soi. Donc, pour Exner, ça montre, dans le cadre de ces patients traumatisés crâniens, l'importance de l'altération du fonctionnement affectif. Et en particulier, il y a un indice avec la méthode Exner qui s'appelle l'indice d'incompétence sociale, qui est très élevé dans ces protocoles de Rorschach, de 53 à 60% contre 3% dans la population. Alors quand on travaille avec des patients traumatisés crâniens, on sait qu'une des grandes difficultés de ces patients, c'est l'adaptation sociale justement et de garder, ce sont des patients qui peuvent être désinhibés, qui peuvent avoir des passages à l'acte. Donc c'est vrai que cet indice d'incompétence sociale rejoint un petit peu la clinique. Il retrouve aussi la difficulté à faire face aux situations de la vie quotidienne qu'on retrouve quand on écoute des patients traumatisés crâniens et qui ont beaucoup de mal à initier, à faire un plan, mettre des stratégies en place. Il s'oppose à l'utilisation du Rorschach pour les diagnostics de l'organicité parce qu'on en est évidemment 96, ça n'a plus aucun intérêt. Il regrette l'absence d'études longitudinales. Ça, c'est très juste. Je pense qu'il y a un grand secteur de recherche à faire dans ce domaine-là. Et il dit quand même qu'au niveau des signes organiques, il reprend cette opposition qu'il n'y a pas de grande différence avec une population normale, sauf qu'il n'a pas tout à fait la même façon d'analyser les réponses qui a été faites chez Piotrowski. Alors, finalement, quand on reprend la synthèse de la littérature qui a été faite dans un numéro de psychologie clinique et projective en 1999 par Darbelay, il est noté quand même que l'utilisation du Rorschach pour ces patients cérébro-lésés et avec des atteintes neuropsychologiques a été surtout utilisée pour détecter une organicité au départ, pour étudier les différences de fonctionnement cognitif suivant les lésions, ça c'est les études de Bailey. Et puis on en arrive quand même maintenant à plus essayer de comprendre les répercussions de l'atteinte cérébrale sur le fonctionnement psychologique du sujet. Et ça c'est un autre domaine de recherche qui est beaucoup plus du domaine de la recherche de la psychologie clinique, de la psychopathologie, et qui se sort un petit peu de ce débat autour du diagnostic de l'organicité et qui a plus une visée d'accompagnement psychologique et psychothérapeutique de ces patients. Alors quand même, il faut de faire le point sur cette littérature, ça permet quand même de mettre en évidence des limites par rapport à l'utilisation notamment du Rorschach. Alors c'est vrai, quand on étudie un protocole de Rorschach, on n'a pas l'état antérieur, Il y a une méconnaissance de l'état antérieur. Donc on ne peut pas utiliser le Rorschach pour faire une comparaison entre l'état antérieur et l'état actuel. Mais ce n'est pas ce qu'on va rechercher finalement. Enfin, en tout cas, moi, ce n'est pas ce que je recherche maintenant. Donc l'absence d'études longitudinales, on en a parlé. Il y a l'effet des lésions sur les perceptions visuelles. Donc ça, c'est important. On l'a vu en particulier pour les patients qui avaient des atteintes occipitales. Donc c'est sûr que ça va introduire un biais dans les réponses. Ce qui est intéressant aussi, qui a été mis en évidence par Minor en 89, c'est qu'on a sous-estimé aussi dans l'analyse des protocoles des Rorschach l'importance de la fonction linguistique, des fonctions linguistiques nécessaires pour produire les protocoles. Et les troubles du langage, les troubles du langage peuvent aussi biaiser les réponses des patients aux protocoles, dans le Rorschach. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Ça veut dire aussi, probablement, d'une part, qu'il faut tenir compte du profil neuropsychologique pour interpréter ces protocoles, mais aussi qu'on doit aménager sûrement la passation même du Rorschach. C'est-à-dire qu'il y a une mise en confiance, il y a une recherche des réponses vers lesquelles on peut aller. Voilà. Ce qui intéresse finalement, c'est la clinique, c'est ce qui va pouvoir donner le patient. C'est pas de retrouver qu'il a des difficultés de langage et des difficultés cognitives. Ce qui va être important, c'est quel est son fonctionnement psychique avec ce qui lui est arrivé. Bien. Donc, je crois que voilà, on ne peut pas se répéter. Ce que Exner aussi mettait en avant par rapport au Rorschach, c'est que pour lui, le Rorschach permettait une articulation entre les facteurs cognitifs et affectifs, tout en disant que ça ne pouvait pas être une méthode d'évaluation neuropsychologique pour les neuropsychologues, c'est-à-dire les histoires d'organicité. Mais pour Exner, finalement, le Rorschach peut presque devenir une situation de résolution de problèmes, c'est-à-dire peut offrir une évaluation cognitive. Bien. Ça, c'est une possibilité. Alors, moi, ce que je voulais vous présenter là, c'est un petit peu les résultats d'une utilisation du Rorschach et du TAT dans une perspective psychanalytique et en s'appuyant sur la façon de procéder donc de l'école de Paris, Anzieux, Chabert, enfin maintenant toute l'équipe autour de Catherine Chabert à Paris 5, et en utilisant donc le Rorschach et le TAT dans ce cadre-là, dans cette perspective psychanalytique, qu'est-ce que ça pouvait donner auprès de ces patients cérébrolisés. Donc finalement, l'objectif, moi, de ma recherche dans l'utilisation de ces tests projectifs, de la méthode projective, parce que Catherine Chabert préfère parler de méthode projective que de test projectif, elle a bien raison d'ailleurs, il ne s'agit pas finalement de rechercher forcément une articulation des facteurs cognitifs et affectifs, mais d'apporter un petit peu une pierre à la question d'avoir deux points de vue épistémologiquement différents. C'est-à-dire qu'on a d'un côté les neurologues, les neuropsychologues qui vont nous apporter un point de vue extrêmement précis et très précieux pour la compréhension de ces patients. Et du côté de la psychopathologie, qu'est-ce qu'on peut apporter aussi à travers l'utilisation du test de Rorschach, mais sans mélanger l'articulation cognitive et affective dans le Rorschach lui-même. Même si, une fois de plus, on est vigilant dans l'interprétation aux données neuropsychologiques. Donc il s'agit de rencontres du fonctionnement psychique de ces sujets, ici et maintenant, et tout en, une fois de plus, ça demande quand même un minimum d'écoute et de formation aux données neuropsychologiques pour l'interprétation des résultats. Et la question finalement, en tout cas moi, la question sur laquelle je me suis centrée dans ma recherche, c'est la question de l'activité de pensée, en particulier l'activité de pensée chez les adolescents qui ont eu un traumatisme crânien durant l'enfance, et comment l'activité de pensée pouvait être altérée par le traumatisme crânien, enfin, en tout cas par les conséquences du traumatisme crânien. C'est-à-dire les conséquences neuropsychologiques, entre autres, du traumatisme crânien. Alors, pourquoi cette question me semblait importante? Parce que à l'adolescence, pour dépasser, dans le processus normal de l'adolescence, on sait que l'activité de pensée est extrêmement importante, puisqu'elle va permettre la sublimation. Avec les différentes phases de l'adolescence, le moment où il y a cette intense créativité dans les phases d'adolescence proprement dites, et les phases de l'adolescence tardive avec le choix de l'orientation professionnelle, l'investigation intellectuelle. Donc cette activité de pensée est absolument nécessaire au sujet adolescent pour dépasser la crise pubertaire et pour arriver à faire face aussi à la montée pulsionnelle de l'adolescence. Alors, donc, finalement, la question qui suit, c'est quelles sont les caractéristiques de l'investissement de la pensée d'un point de vue psychanalytique. Donc là, vous voyez que je ne me place pas du tout d'un point de vue cognitif, mais c'est la pensée en tant que investie libidinalement. Donc, l'utilisation de la pensée, le plaisir de penser chez des adolescents cérébro-lésés. Alors les hypothèses que j'avais au départ, donc, c'est que l'activité de pensée est entravée par les changements cognitifs du sujet liés au traumatisme crânien et à ses séquelles, que les processus de symbolisation et de sublimation seraient altérés, et que donc du coup il y aurait une difficulté pour se dégager des conflits de l'adolescence. Alors, je ne sais pas si je détaille, peut-être pas, hein, simplement, grosso modo, c'était des... Quand j'ai les adolescents qui ont donc bien voulu participer à la recherche avaient eu un accident 5 ans avant la passation, minimum 5 ans avant. Donc ça me semblait important, c'est-à-dire pour avoir vraiment des patients stabilisés et ne pas être dans ces phases de consolidation, de récupération qui quand même provoquent un biais. Et c'était de voir si cet événement ancien pouvait encore avoir un impact sur les sujets, sachant que tous avaient repris une scolarité ordinaire après l'accident, même si le fait de reprendre une scolarité ordinaire après l'accident ne signifiait pas que la scolarité restait ordinaire tout au long de leur scolarité. C'est-à-dire que, grosso modo, 3 à 4 ans après l'accident, on se rendait compte qu'il y avait d'importantes difficultés scolaires. Et puis, bien sûr, en essayant d'enlever au maximum les biais sur les antécédents, sur ce qu'on pouvait en connaître. Bien. Donc, au niveau de la méthodologie, juste, il se trouve que j'avais fait le choix du domicile pour faire la passation de ces tests. Et c'était quelque chose d'intéressant parce que ça permettait d'une part, alors au niveau de, parce qu'il y a une partie de la recherche aussi auprès des familles, donc auprès des familles, ça permettait vraiment une grande liberté d'expression des familles par rapport à cet accident, à ce qui pouvait se passer dans leur relation avec leurs enfants. Et au niveau des adolescents aussi, il y avait quelque chose de rassurant, ils étaient sur leur terrain. Et donc on enlevait quand même un certain nombre de biais d'anxiété, de désarroi qu'on peut trouver dans le cadre hospitalier. Donc l'analyse des protocoles, j'avais choisi de faire donc 4 étapes. La première étape, c'était d'analyser l'utilisation de l'activité de pensée, ensuite son investissement, ensuite la qualité de cet investissement, et enfin essayer de dégager des signes qui permettaient de montrer le passage d'une symbolisation possible à la sublimation. Alors, si on reprend point par point, donc la première étape, c'est l'utilisation de l'activité de pensée. Alors, est-ce que ces adolescents utilisent leur pensée ? Est-ce qu'ils utilisent leur pensée ou au contraire, y a-t-il des manifestations d'inhibition ? Et une pauvreté généralisée dans l'utilisation de l'activité de pensée. Vous vous souvenez que toutes les études antérieures chez les adultes et très, très proches de l'accident, on voyait des protocoles très inhibés. Avec comme critère donc, le nombre de réponses, le temps de latence, les refus et le nombre de cas. Donc, c'est des critères qu'on retrouve systématiquement. La deuxième étape, c'était donc l'investissement libidinal de l'activité de pensée, c'est-à-dire comment l'activité fantasmatique se déploie-t-elle, est-ce qu'elle est riche, comment le sujet exploite sa capacité de penser pour créer des scénarios, créer des scénarios qui vont lier les mouvements pulsionnels internes, et puis par défaut, donc, voir si au contraire on va avoir des contenus symboliques, des réponses crues, etc. Donc ça, aussi un certain nombre de critères qui sont couramment utilisés par rapport à cette question-là, en particulier l'organisation des réponses autour d'appréhension GD. Alors la qualité de l'investissement cognitif, c'est-à-dire que il peut y avoir une activité fantasmatique riche, mais elle a des sens différents suivant son accrochage avec les réalités externes, c'est-à-dire si la personne peut prendre en compte les éléments de réalité externe, ça montre quand même qu'il y a des possibilités de dégagement par la sublimation, c'est-à-dire qu'on prend en compte, on peut faire des compromis avec les réalités externes pour mettre en scénario les mouvements pulsionnels internes et pour s'en dégager. Au contraire, si jamais il y a une mauvaise adaptation à la réalité externe, il y a un fonctionnement qui peut être ou très défensif par rapport aux émois pulsionnels internes ou très défensif par rapport à ce qui vient de l'extérieur et finalement bloquer un petit peu le passage à la sublimation. Donc là on note justement la bonne qualité formelle des réponses, le nombre de banalités qui montre que la personne justement va avoir une perception proche de la population ordinaire, la qualité des kinesthésies, c'est-à-dire si quand il y a des scénarios avec des mouvements, avec des mouvements humains, des relations humaines qui sont mises en action, est-ce que c'est basé quand même sur la qualité, sur une bonne qualité formelle, ou bien si ça part complètement en vrille, si j'ose dire. Et le TRI, c'est-à-dire ce fameux rapport où on essaye de voir si les réponses vont plus être du côté de réponses qui vont être autour de l'intériorisation, ou bien de réponses autour des affects, ou bien des protocoles qui vont être très inhibés, donc ni dans un sens ni dans un autre. Enfin, la quatrième étape, alors là, Michel Emmanuelli, hein, qui travaille beaucoup, enfin, qui est grande spécialiste et de l'adolescence et des tests projectifs, a mis au point un certain nombre de critères par rapport aux facteurs qui peuvent nous indiquer les processus de sublimation dans les protocoles. Donc j'ai repris tout simplement ces critères. Alors, les résultats. Alors oui, c'est en anglais, j'ai oublié de le traduire, c'est pas grave. Donc ce que l'on peut voir dans cette population de 20 ados, à peu près homogène au niveau en tout cas des conséquences du trauma crânien, c'est que l'utilisation de la pensée, ben, elle est très forte, que ce soit au niveau de Rorschach et du TAT. L'investissement de la pensée, comme l'investissement libidinal de la pensée, est aussi forte, aussi encore très forte. Par contre, la qualité de cet investissement, elle chute pour plus de la moitié des adolescents, c'est-à-dire que certes il y a une pensée qui est investie, une pensée qui est utilisée, mais elle n'est pas de bonne qualité par rapport à son ancrage dans la réalité externe. Et du coup, il y a, par rapport aux critères de Michel Emmanuelli, de grosses difficultés de dégagement dans des processus de symbolisation. Au niveau de l'ensemble des protocoles, ce qui a été un peu intéressant, c'est que par rapport au niveau 1 de tout à l'heure, donc l'utilisation de la capacité de penser, je n'ai pas retrouvé les facteurs d'inhibition qu'avaient retrouvé les autres études. Il n'y avait pas d'inhibition. Il y avait un investissement d'activité cognitive qui prouvait, me semble-t-il, en tout cas pour ces ados, qu'il n'y avait pas une atteinte du travail psychique, du désir du travail psychique. Alors que, à 5 ans de l'accident, alors que c'était des jeunes qui sont sortis de rééducation pour aller directement dans le milieu normal et la plupart sans suivi, on pensait qu'il n'y aurait pas de difficultés d'apprentissage. Et à 5 ans, moi, quand je les ai revus, en fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, ils avaient pour la majeure partie de ces ados de très grosses difficultés d'apprentissage. Donc, il y avait bien une altération cognitive, mais dans leur Rorschach, il n'y avait pas d'inhibition. Alors, c'est aussi le fait peut-être que j'étais chez eux. Le niveau 2, au niveau de l'investissement libidinal, il y avait un investissement significatif, donc des protocoles riches et créatifs. Donc une réalité, un lien avec la réalité externe, comme pour Thomas. Par conséquent, la question qu'on peut se poser, c'est si cette activité de pensée n'est pas non plus une activité de pensée qui est plus un mécanisme de défense et qui empêche la résolution de conflits psychiques, avec pour certains jeunes une impression que la pensée tourne à vide, hein, qui tourne sans lien avec les réalités externes ou internes, c'est-à-dire qu'il ne prend pas en compte ni les éléments de réalité interne ni les éléments de réalité externe. Mais par contre, il y a beaucoup de production fantasmatique. Donc ça rappelle. Alors c'est pas forcément les processus primaires non plus, mais c'est des secondarisations qui sont pas bonnes dans le cadre de la résolution des conflits psychiques. Ça fait penser un petit peu à ce qu'avait exposé sur les disharmonies psychotiques Mario Speranza. Et le niveau 4, donc la question du passage à la sublimation, et ben donc là, avec très très peu de passage à la sublimation, suivant les critères de Michel Emmanuel, alors peut-être qu'ils sont un peu sévères, on peut trouver en même temps, vu le. Je pense que c'est des bons critères, mais on peut toujours se dire ça. Ce qui est évident, c'est que les lésions neuropsychologiques montrent aussi la difficulté. De l'élaboration, peut-être pour expliquer en partie les difficultés pour l'élaboration psychique et la résolution des conflits. Il y a une perte de flexibilité mentale, il y a des persévérations, il y a des déficits des fonctions exécutives. Donc, est-ce que ça peut restreindre ce processus? Voilà. Toutes ces atteintes neuropsychologiques conduisent quand même à une activité cognitive qui entrave l'intégration des différentes formes de perception, et ça peut aussi être compliqué pour la prise en compte de tout ce qui est externe. Ça me semble vraiment un résultat très important pour ces adolescents, mais il ne faut pas oublier que ce sont aussi des adolescents, ça fait partie du processus de l'adolescence, c'est pas forcément pareil si on revoit ces patients à l'âge adulte. Cependant, la fragilité de l'ancrage dans la réalité montre que cette activité de pensée peut se trouver prise dans une position défensive. Les possibilités de sublimation semblent fragiles, ce qui nous amène à formuler l'hypothèse suivante. La mauvaise qualité de l'investissement cognitif dans son rapport avec la réalité externe est en lien, mais dans quelle proportion, avec les difficultés neuropsychologiques des sujets, et en particulier avec les difficultés à unir, à faire des associations entre les différentes modalités perceptives du sujet. Donc l'investissement, voire le surinvestissement de l'activité cognitive viendrait ici compenser le dérèglement de ces liens entre les différentes modalités perceptives qui œuvrent normalement avec, en silence, avec efficacité et en silence, dans le rapport au monde du sujet qui n'a pas lésion cérébrale. Nous constatons alors une activité cognitive qui ne demande qu'à se déployer, mais qui ne peut pas s'appuyer sur la réalité externe, autant pour en être alimentée que pour avoir une fonction de maîtrise sur elle. Ça suppose aussi qu'au bout d'un moment, il va y avoir un épuisement de cette activité cognitive possible. L'inflation de l'imaginaire, sans cet aller-retour avec la réalité, peut alors envahir le champ de la pensée et fonctionner à vide, ce qui peut faire ressembler à un fonctionnement psychotique, mais ces jeunes ne sont pas structurellement psychotiques. On ne retrouve pas de signes psychotiques autrement dans les protocoles. Pour lutter contre cette... Et en ça, on est tout à fait d'accord, je suis tout à fait d'accord avec les résultats d'Exner. Pour lutter contre cette inflation imaginaire, lui donner un sens et la socialiser, spontanément, nombre de jeunes traumatisés crâniens se tournent vers des activités artistiques, c'est quelque chose qui est très demandé, qui leur offre alors une voie d'issue sublimatoire que n'offrent plus les apprentissages scolaires et pré-professionnels. Ainsi, les séquelles neuropsychologiques apparaissent comme de véritables impasses subjectives bloquant l'écoulement de la tension libidinale pour les adolescents traumatisés crâniens. Elles limitent la possibilité de mettre au service des satisfactions indirectes ou sublimées l'énergie pulsionnelle. Il y a potentiellement dans cette configuration des risques de violence latente, bien connus donc par les familles et bien connus par les institutions, liés à cette impasse subjective. Du coup, je pense que les solutions artistiques devraient être non seulement facilitées, mais proposées quasi systématiquement comme de véritables issues sublimatoires possibles et aux multiples avantages. Et comme exemple, je voulais vous montrer ce poème d'un jeune qui a eu un accident à 18 ans, qui a eu un accident extrêmement grave, 6 mois de coma, qui ne correspond pas du tout à... et qui est devenu sourd, et qui a fait ce poème extrêmement touchant sur une musique que je vais essayer de vous passer. Il a écrit en anglais. Je trouve que c'est extrêmement touchant par rapport au sentiment de solitude et à la difficulté d'établir des relations chez ces jeunes. Voilà. Je vous remercie.
Moi, je vais me permettre d'ouvrir la discussion avec un certain nombre de réflexions que tu as. Ton exposé que j'ai trouvé vraiment très, très intéressant. On est sans arrêt dans le paradigme qu'on utilise de la double lecture neuropsychologique et psychodynamique à la recherche d'outils qui pourraient nous permettre d'avoir un accès qualitatif et quantifiable à cette dimension. Je donne un exemple. À Necker, on a eu très récemment une patiente hospitalisée pour une sclérose en plaques cérébrale dont la seule symptomatologie est comportementale. Et en faisant un bilan cognitif, on s'est aperçu aussi qu'elle avait des troubles cognitifs. Et la neurologue est venue discuter avec nous. Et je lui donnais des tas de symptômes psychiatriques. Elle me dit, mais c'est très bien, mais je m'en fous. Parce que si elle va mieux sous corticoïdes, je ne saurais pas distinguer ce qui fait l'effet des corticoïdes et de son trouble. Et tu ne me donnes pas des marqueurs objectifs. Et si j'ai un pépin dans mon traitement, parce que je vais lui donner un traitement extrêmement lourd, devant les tribunaux, ça ne fera pas un pli. Et cette question de la limite de la clinique psychopathologique, y compris dans sa complexité, je vous ai une analyse assez détaillée, Et j'arrivais pas à lui dire autre chose que « mais je te le dirai, je le sentirai, je peux me mettre une idée ». Et j'avais beaucoup de mal à avoir des indices objectifs. Et je me dis que... Et alors je tannais Valérie en lui disant « mais fais-lui donc des tests projectifs ». Alors elle, et elle s'est tournée vers les, la neurologue s'est tournée vers les neuropsychologues en disant « t'as combien au QI, t'as quoi comme déficit, combien tu peux chiffrer ?» et on ne peut pas la soupçonner d'être antipsychopatho. Elle dit « ben ça, tu vois, ça tient au tribunal ». Alors, bon, je vous donne un exemple un tout petit peu... extrême, c'est une conversation qui date de vendredi, mais qui montre bien comment on a des difficultés à pouvoir caractériser des éléments d'une grande subtilité et qui sont tout à fait prototypiques, moi je trouve, effectivement, des patients et qui nous parlent assez bien des processus psychiques et de leur investissement. Et donc, on voit qu'il existe, enfin, en tout cas, on fait l'effort d'avoir des outils qualitatifs, mais aussi quantitatifs, reproductibles. Alors, on ne fait pas une publication dans un grand canard avec des projectifs qui ne sont pas façon Exner. Et en même temps, on s'aperçoit quand on les fait façon Exner, on perd la moitié des informations qui nous intéressent. C'est-à-dire, et c'est ma remarque numéro 2, on ne mesure que le fonctionnement, l'activité de pensée. Et tu as bien dit, moi je mesure d'abord l'activité de pensée, ensuite l'investissement de l'activité de pensée, ce qui n'a rien à voir. Et la méthode Exner, à ma connaissance, elle ne mesure pas cette deuxième dimension qui est dans la dimension de l'investissement ou de l'utilisation des pensées. Mais là, à mon avis, à affiner ce type d'outils. On a d'ailleurs des liens avec Paris 5 et Michel Emmanueli pour essayer de travailler sur cette caractérisation chez ces patients. Une troisième remarque, c'est que tu l'as dit à la fin, les protocoles de patients psychotiques, ça donne quoi par rapport à ces patients-là? Parce que maintenant qu'on est en train de découvrir des dysfonctionnements neuropsychologiques subtils et des anomalies du fonctionnement cérébral chez les schizophrènes, je trouve que ça vaudrait le coup d'essayer de confronter ces protocoles. Ils ne l'ont pas fait, hein, se préciter ou ne pas citer les protocoles psychotiques. Hein. Mais moi, je serais assez intéressée. Ils n'ont pas trouvé de protocole psychotique. Hein. Ah, c'est marrant. Parce que moi, je me souviens quand j'étais à la Salpêtrière, chez les adolescents, on parlait beaucoup chez les psychotiques de la dimension dite organique ou pas aussi pour qualifier l'histoire psychotique ou la différencier d'une histoire psychotique versus...
C'est-à-dire de jeunes qui avaient eu des...
Qui avaient eu une bouffée délirante ou une schizophrénie à l'adolescence et que donnent ces protocoles par rapport aux protocoles de patients cérébro-lésés.
Ah oui, je pense que ce serait très différent.
Moi, je demande à voir, effectivement, sûrement différent, mais ça mériterait, à mon avis, d'être comparé. Oui. Une autre remarque qui me venait, c'est comment on est des êtres éminemment visuels. C'est-à-dire que tous ces protocoles sont basés sur les problèmes visuels. Tu l'as souligné pour les agnosies. Pour ceux qui étaient là quand j'ai présenté le cas de la patiente qui avait une agnosie visuelle, une prosopagnosie, on avait essayé de lui faire passer des tests projectifs verbaux et on s'apercevait que la qualité probablement de la projection sur du matériel verbal n'était pas du tout la même, ou en tout cas on n'arrivait pas à reconstituer dans un protocole verbal. Je ne sais plus comment il s'appelait, le protocole verbal. Les fables de Duss. Moi je trouve qu'on n'arrivait pas, avec ces fables de Duss, à avoir un matériel aussi intéressant que matériel visuel. Or, il suffit d'avoir une atteinte quasiment frontale, temporale, pariétale ou occipitale pour avoir un trouble neurovisuel. C'est ce que nous a montré un peu Sylvie Chocron. Et d'où donc effectivement la limite de ce type de matériel.
Mais on peut aussi utiliser le Rorschach en sachant qu'on va avoir beaucoup de F1.
Alors voilà. Voilà.
Ce qui est intéressant, c'est aussi d'accéder à tout ce qui est conflictuel, pulsionnel, et qu'est-ce qu'en fait la personne. À la limite, ça veut dire qu'on modère notre appréciation des F1, notre interprétation des F1. Oui. Mais il faut le faire d'un point de vue qualitatif. Moi, je pense que c'est très utile. Parce qu'il y a quand même... un accès à tout ce qui est fonctionnement psychique. C'est vrai qu'il est difficile de retrouver ailleurs. Il est tellement ancien ce test, il y a tellement de gens qui ont travaillé autour, qu'on a quand même beaucoup d'outils pour le...
Mais enfin, ça montre qu'on est éminemment des êtres de vision, hein, et que nos métaphores, d'ailleurs, sont beaucoup des métaphores visuelles. Et puis, un dernier point, quand tu parles de l'inflation de l'imaginaire qui envahit le champ de la pensée, un fonctionnement à vide, c'est exactement ce que racontait Mario Speranza quand il parlait des disharmonies psychotiques, où il disait qu'au bout d'un moment, on arrivait à arrêter ces espèces de fonctionnements qui étaient assez rapidement par nos collègues qualifiés de psychotiques, en aidant à un réinvestissement de l'activité de la cognition avec un enfin, en rétablissement la balance investissement et activité de pensée. Mm-hmm. Et ça, on voit bien que quand on fait des thérapies ou des prises en charge d'enfants, c'est pas du tout pareil de procéder à ce travail-là de réadéquation entre l'investissement et l'activité de pensée que de s'engager déjà dans un protocole de psychothérapie d'un patient psychotique et que ce type de connaissances-là, il est fondamental pour la prise en charge qu'on va proposer. Et il le disait bien, et c'est notre expérience, quand on arrive à faire ça, on voit que les productions pseudo-délirantes tombent complètement et qu'ils se remettent à fonctionner de manière beaucoup plus efficiente.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est que spontanément, enfin, je veux dire, une des ressources de ces ados, c'est de toute façon d'aller vers, par exemple, les activités créatrices, qui sont aussi une activité où ils partagent avec les autres, où ils transmettent, où ils rencontrent. Donc, ça n'a rien d'un fonctionnement psychotique. Mmh. Et c'est d'en faire quelque chose dans le partage avec l'autre, mais où on peut se dégager de la réalité externe parce qu'ils n'arrivent pas à la maîtriser suffisamment. Et donc là, on voit bien qu'on n'est pas du tout dans un fonctionnement.
Oui, c'est quelque chose qui est socialement partageable, valorisé, voilà. Sans que ça passe par un phénomène de cognition.
Voilà, c'est ça.